Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie. Entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que l'on évoque trop peu, l'éléphant invisible, comme le dirait si bien notre invité, l'inceste. Patrick Loiseleur œuvre avec l'association Face à l'inceste à sensibiliser le plus grand nombre à cette violence sexuelle si terrifiante et pourtant si peu évoquée tant elle paraît taboue. Pourtant, l'inceste concerne un Français sur 10, avec des survivants qui attendront souvent des années avant de révéler ce traumatisme. C'était essentiel pour nous de lutter à notre échelle contre l'inceste, pour protéger chaque enfant et comprendre comment les accompagner au mieux autour des sujets de la sexualité, du consentement, et surtout de la pleine possession de son corps. Très bonne écoute. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec vous pour parler d'une cause que vous portez et qui mérite d'être encore plus entendue, la lutte contre l'inceste. Vous êtes vice-président de l'association Face à l'inceste qui vise à protéger nos enfants de l'inceste et de ses conséquences. En effet, un Français sur 10 serait victime d'inceste. Et pourtant, vous dites de l'inceste que c'est un éléphant invisible, que c'est interdit de le faire, mais aussi interdit d'en parler. Pourquoi est-ce que vous dites cela ?
Alors effectivement, cette analogie de l'éléphant invisible, elle m'est venue en pensant à ce paradoxe. Comment ça se fait, d'après notre étude, en effet, il y a 10% des Français qui disent avoir subi l'inceste. 10%, c'est énorme, ça fait 6,7 millions de personnes, d'après notre étude Face à l'inceste qui est parue en novembre 2020. Donc on se dit comment un crime peut être commis sur une échelle aussi grande en restant aussi peu médiatisé, aussi peu identifié en tant que cause de santé publique. Regardez les moyens qu'on met, par exemple, en la sécurité routière, la lutte contre le cancer ou le terrorisme. Les violences sexuelles contre les enfants sont loin de bénéficier d'un traitement comparable en termes de moyens, de recherche, d'objectifs politiques, de volonté. Donc l'inceste, c'est un peu l'éléphant invisible. C'est tellement gros que personne ne peut arriver à le voir.
Et est-ce que vous savez pourquoi ce sujet est traité de cette manière-là ?
Alors, pourquoi ? Je pense déjà que le silence fait partie intégrante du crime d'inceste au moment où il est commis. Parce que l'agresseur, il ne peut pas prendre la fuite. Donc le seul moyen d'assurer son impunité, c'est de s'assurer du silence de la victime et de toute la famille. Et donc pour ça, il va pouvoir mettre en place toutes sortes de stratégies, en utilisant tous les moyens qu'on peut imaginer, manipulation, chantage, parfois violence. Ça dépend des cas, mais le silence est vraiment partie intégrante de l'inceste. Et c'est ça qui rend la lutte contre l'inceste assez difficile. C'est aussi que c'est un crime qui est commis dans le huis clos de la famille, et qu'il est difficile pour les pouvoirs publics, finalement, d'avoir accès à cet espace qui est par définition un espace privé intime.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est l'inceste ?
Oui, alors qu'est-ce que c'est que l'inceste ? L'inceste est défini dans le code pénal comme c'est une agression sexuelle ou un viol qui est commis par une des personnes de la famille avec qui on n'a pas le droit de se marier. Et pour être précis, c'est les ascendants, c'est-à-dire les parents et grands-parents, c'est les oncles et tantes, c'est les neveux et nièces, et c'est aussi les conjoints lorsqu'ils sont en position d'autorité. Par exemple, les beaux-pères, ou alors le conjoint d'une tante, par exemple, qui va être en position d'autorité par rapport à l'enfant.
Et on dit souvent de l'inceste que les survivants révèlent leur vécu, souvent des années après. Est-ce que vous sauriez l'expliquer pourquoi ?
Alors, souvent les enfants parlent, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils parlent dans leur propre famille, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas crus, ils ne sont pas protégés. On a des chiffres, nous, qui disent que dans 4 familles sur 5, quand il y a un enfant qui parle de l'inceste qu'il subit, on lui fait bien comprendre qu'il doit se taire et qu'il ne doit plus en parler. Et donc, une fois que l'enfant a parlé une première fois et qu'il n'a pas été entendu, il se tait et ce silence peut durer ensuite des années ou des décennies.
Et donc, vous accompagnez ces survivants pour qu'ils parlent même des années après ?
Oui, et puis il y a d'autres phénomènes comme l'amnésie dissociative qui fait que le cerveau peut bloquer une partie des souvenirs parce qu'ils sont tellement traumatisants qu'on a une mesure de survie. En quelque sorte, le déni est une réaction de survie face à quelque chose qui est tellement impensable, tellement difficile à concevoir, à imaginer. Finalement, on va simplement, le cerveau va bloquer ces souvenirs traumatiques. Et donc ça, au moment où on est prêt à les affronter, à y faire face, et peut éventuellement à travailler dessus en thérapie, ces souvenirs vont pouvoir revenir d'un coup. Donc ça, c'est aussi un autre facteur qui contribue au fait que l'inceste peut être révélé très tardivement.
Et quelles sont les conséquences possibles de l'inceste ? Je sais que forcément, il y a des conséquences physiques, il peut y avoir des conséquences psychologiques. Est-ce que vous pourriez nous étayer ces conséquences-là ? Pour les victimes ?
Oui, alors sur les conséquences en général des traumatismes de l'enfance à l'âge adulte, on a des études passionnantes qui ont été menées aux États-Unis qui s'appellent Adverse Childhood Experience, ACE. On a montré que tous les traumatismes qui tendent à créer du stress à un niveau toxique pour un enfant, donc évidemment ça peut être les violences sexuelles, ça peut être des violences physiques, d'autres formes de maltraitance, ça peut être le décès d'un parent, enfin... Il y a un certain nombre d'événements comme ça traumatiques de l'enfance, et les chercheurs ont fait un lien statistique qui est très fort entre les événements traumatiques de l'enfance et la santé à l'âge adulte. En gros, les enfants qui ont été polytraumatisés, qui ont un score de supérieur à 4 sur une échelle qui va de 0 à 10, ces enfants-là, ils perdent jusqu'à 20 ans d'espérance de vie, et ils ont apporté toutes sortes de conséquences à l'âge adulte qui peuvent être l'addiction à l'alcool et aux drogues, les maladies chroniques, la dépression, le suicide, toutes sortes aussi de comportements autodestructeurs, comme le fait de rechercher un conjoint violent inconsciemment. Mais ce qu'il faut savoir aussi quand même, parce que là aussi la traumatologie quand même, c'est quelque chose qui existe depuis 100 ans, ça existe depuis la Première Guerre mondiale, donc c'est quelque chose quand même a été bien étudié, c'est-à-dire que les traumatismes liés aux violences sexuelles pendant l'enfance, ils sont lourds, ils sont graves, et ils sont parfois irréversibles, mais on sait quand même les soigner. Faut pas avoir un message purement désespérant pour les survivants, c'est que quand même la traumatologie, on a des clés pour les soigner. Et il y a aujourd'hui en France une dizaine de centres de psychotrauma qui peuvent accompagner les survivants.
J'avais vu aussi que l'inceste est souvent répété pendant des années. Peut-être que vous pourriez nous parler de ça et expliquer comment cela s'explique.
Déjà, je pense qu'il y a une partie des agresseurs incestueux qui sont opportunistes. En fait, ils vont utiliser les enfants de leur famille parce que c'est facile, parce qu'ils sont accessibles, finalement. Et c'est ça aussi qui va favoriser la répétition. Donc effectivement, par rapport à un événement unique qui va constituer ce qu'on appelle un trauma de type 1, c'est que, par exemple un accident ou un attentat terroriste, c'est-à-dire un événement unique traumatisant, l'inceste est souvent répété pendant des années, donc ça va être un trauma de type 2, qui est un trauma complexe, qui est plus difficile à soigner. Et il y a ce que je disais tout à l'heure sur vraiment la stratégie du silence qui est mise en place par l'agresseur et qui évidemment va lui permettre de récidiver pendant des années et souvent de multiplier les victimes à l'intérieur de la même famille avant d'être enfin arrêté.
On parle souvent de culpabilité, de honte autour de l'inceste, c'est un sujet tabou. Pourquoi est-ce qu'il existe encore ces sentiments alors que des associations comme vous font des travaux formidables pour justement sensibiliser autour de l'inceste ? Comment est-ce qu'on en arrive encore à des survivants qui ont honte de parler de ces violences-là ?
Alors, il y en a qui parlent de la colonisation psychique par l'agresseur, c'est-à-dire que l'agresseur va projeter sur la victime ses sentiments négatifs, dont la honte et la culpabilité, et la victime va en quelque sorte les intégrer et les vivre comme si c'était les siens propres. Et de même, la personne survivante d'inceste va pouvoir se détester elle-même pas à cause de ce qu'elle a subi, parce qu'elle s'est pas défendue, parce qu'elle a pas su dire non, parce que... Donc, mais ces sentiments-là ne sont pas vraiment les siens. Ils ont été en quelque sorte importés, projetés par l'agresseur. Il y a aussi tout ce qui est dans la culture, toute la culture du viol en général, que je ne vais pas détailler, mais qui revient en gros à inverser les rôles entre l'agresseur et la victime. et à dire à la victime, bah, t'aurais dû faire attention, t'aurais dû dire non, pourquoi tu l'as séduit, pourquoi, etc. Et toute cette, il y a également tout ce qui dans la culture associe la sexualité à quelque chose qui est sale, qui est honteux et dont il ne faut surtout pas parler ouvertement. Donc tout ça contribue à enfermer finalement les personnes victimes dans une espèce de bulle où c'est pas forcément qu'elles veulent pas parler, c'est qu'elles ne peuvent pas être entendues, c'est qu'on ne les écoute pas et on n'a pas développé finalement une écoute suffisante.
Sylvie, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, j'aimerais poser une question en tant qu'enseignant dans les écoles. Comment on peut faire justement pour savoir écouter ça ? Parce que c'est stupéfiant quand on se dit qu'on a une classe de 30-40 enfants et que donc il y en a au moins 4 dans la classe qui sont victimes d'inceste et qu'on ne le sait pas, qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut déceler chez l'enfant ? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas comment on peut aborder ce sujet pour que l'enfant puisse se sentir compris ou même arrive à le dire ou... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enseignants dans une école ?
Alors, moi je pense que je crois beaucoup en l'éducation positive et bienveillante. Et je pense qu'une éducation bienveillante, évidemment, c'est positif pour l'enfant, mais c'est aussi une des meilleures manières qu'on puisse trouver de le protéger contre les violences sexuelles. Pourquoi ? Parce que si l'enfant sait qu'il peut tout vous dire, qu'il ne sera pas puni simplement parce qu'il vous a parlé de quelque chose, s'il est en confiance, eh bien, il pourra vous dire ce qui lui arrive. À l'inverse, si un enfant a l'habitude d'être puni, d'être réprimandé, et s'il a l'habitude qu'on lui crie dessus, qu'on lui demande de se taire, éventuellement qu'on le frappe, cet enfant, il pourra avoir peur. Il pourra avoir peur de vous dire que son oncle l'a violé. Parce qu'il aura peur des conséquences et justement, il va se sentir responsable de ce qui lui arrive. Donc moi, je crois vraiment beaucoup en la pédagogie positive. Et si on développe une vraie relation de confiance avec l'enfant, et quelque part, on le protège, évidemment.
Est-ce qu'on peut le voir dans certains comportements particuliers d'enfants ? Est-ce que ça peut être observé ?
Alors oui, c'est-à-dire que quand l'enfant n'arrive pas à parler avec des mots, il peut avoir des comportements qui sont des signaux d'alerte, qui sont parfois des appels à l'aide. Alors ça dépend de l'âge des enfants, mais ça peut être des maladies chroniques, ça peut être des comportements justement d'indiscipline à l'école, ça peut être même des comportements délinquants chez des ados qui sont en fait des appels à l'aide. L'enfant essaye d'attirer l'attention. Mais si effectivement, là, quand il y a un enfant qui va d'un seul coup changer de comportement et adopter un comportement rebelle, peut-être même un comportement violent avec ses frères et sœurs par exemple, ou avec ses camarades de classe, la première question à se poser, c'est pas « mais comment je vais faire pour qu'il se tienne tranquille cet enfant ?» mais c'est « est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Pourquoi il est agité comme ça ?» Je vous donne un exemple très concret. Un enfant de 6 ans qui poursuit les filles dans les vestiaires de la piscine et qui leur met la main dans la culotte. Pourquoi il fait ça, cet enfant-là ? Alors on peut le punir, on peut lui expliquer que évidemment il ne faut pas mettre la main dans la culotte des filles, mais on peut se demander pourquoi il fait ça. Et si on prend le temps de l'écouter, c'est ce que font certaines enseignants, certaines directrices d'école, de lui demander qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu fais ça, et ben là on va découvrir que tiens, son tonton lui a montré des films porno pendant plusieurs semaines. Et que finalement, c'est un enfant qui a été victime.
Et est-ce qu'il faut mettre un mot sur l'inceste aux enfants ? Est-ce qu'il faut parler d'inceste aux enfants ?
Alors, moi, j'ai fait le choix de parler d'inceste à mes filles quand elles étaient assez jeunes. Je leur ai parlé de l'inceste qu'avait subi leur grand-mère, qu'avait subi leur grand-tante, et je pense qu'en faisant ça, je les ai protégées. Je pense qu'un enfant, même un enfant assez jeune, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est capable de comprendre qu'il y a certaines parties du corps qui sont des parties intimes, qu'il est strictement interdit aux adultes de toucher ces parties intimes, même aux adultes de la famille. Donc c'est très possible pour un enfant de 4 ou 5 ans de lui dire, écoute, les parties intimes de ton corps, c'est-à-dire celles qui sont couvertes par le maillot de bain, et on peut les nommer avec l'enfant, on peut lui expliquer d'ailleurs la différence qu'il y a entre l'anatomie masculine et l'anatomie féminine, avec des mots simples, avec des mots adaptés à son âge. Et on peut lui dire, ça c'est ton intimité, c'est ton corps, et personne n'a le droit d'y toucher. Et même moi, ton père, ta mère, ton enseignant, je n'ai pas le droit de toucher tes parties intimes. C'est strictement interdit.
Et à partir de quel âge on peut commencer à parler comme ça aux enfants ?
Moi je pense que, ça commence dès la naissance, c'est-à-dire dès la naissance, il y a ce concept fondamental de l'enfant est une personne qui a des droits. Certes, c'est une personne qui n'est pas autonome, Mais c'est pas une petite chose, c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose qui nous appartient et dont on peut disposer librement, qu'on peut faire circuler de bras en bras, qui on peut faire des bisous. C'est une personne qui a des droits, qui doit être traitée avec respect. Et ce respect fondamental de dire qu'on ne doit pas faire à un petit enfant ce qu'on ne ferait pas à un adulte, il va imprégner ensuite tous les comportements qu'on a envers lui et toutes les paroles qu'on a envers lui. Et je pense que respecter l'enfant, c'est aussi répondre à ces questions au fur et à mesure qu'elles arrivent et y répondre de manière vraiment honnête et sincère. Et même un enfant de 6 ans qui vous demande comment on fait les enfants, par exemple, vous allez chercher, il y a des très bons bouquins, il y a l'Encyclo de la vie sexuelle pour cet âge-là, qui explique les choses de manière simple et pédagogique et adaptée aux enfants de cet âge-là. Donc si là, je vais m'adresser aux parents, mais si jamais vous êtes mal à l'aise pour parler de sexualité à vos enfants, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui était peut-être tabou dans votre famille, c'est un sujet par lequel vous avez peut-être vous-même des blocages, des appréhensions, une difficulté à en parler, il y a quand même des ressources pédagogiques qui existent. Il y a des livres, il y a pas mal de ressources qui peuvent vous aider à trouver la bonne manière d'en parler avec vos enfants. Mais je crois que c'est important de dire que la sexualité ne doit pas être un sujet tabou avec les enfants, même avec un enfant de 3 ou 4 ans, parce que si c'est un sujet tabou, l'enfant, le jour où il subira des violences sexuelles, il n'osera pas vous en parler. Donc un enfant de 3 ou 4 ans, on peut déjà répondre à ces questions sur la sexualité. Et je pense qu'effectivement, c'est respecter l'enfant que de répondre à toutes ces questions en disant toujours la vérité, et sans rien dissimuler, et avec des mots, évidemment, adaptés à son âge et à son degré de compréhension. Je crois que l'une des idées clés qui est dans ce livre que je vais bientôt publier chez Atier Parents, sur la prévention des violences sexuelles, c'est que l'enfant est votre partenaire, en fait. Vous allez construire un partenariat avec lui pour assurer sa propre sécurité. De même que pour la sécurité routière, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il est de plus en plus capable de comprendre les règles et aussi les enjeux qu'il y a derrière et d'assurer lui-même sa propre sécurité, de prendre une part active dans sa propre sécurité sur la route. Je pense que c'est pareil pour les violences sexuelles. C'est-à-dire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, que sa compréhension du monde s'élargit, ça va être votre partenaire de plus en plus actif dans la définition, finalement, des mesures de précaution qui le concernent. Par exemple, au moment où vous allez lui donner son premier smartphone, de nos jours, ça se passe même vers 10 ou 11 ans, il faut que vous l'informiez de façon loyale sur toutes les pratiques de harcèlement en ligne qui risque surtout si c'est dont il risque d'être victime surtout si c'est une fille. Il faut que vous l'informiez sur la pornographie, que vous ayez une discussion franche et sérieuse avec lui sur ce sujet aussi. L'enfant, ça va pas être un robot à suivre des consignes que vous lui donnez et qu'il ne comprend pas. Ça n'est pas un disque dur que vous allez juste remplir d'informations et qui va tourner avec. C'est un être vraiment doué d'intelligence, d'autonomie et qui va être votre partenaire dans finalement dans la stratégie de protection que vous allez mettre en place avec votre enfant pour le protéger, pour la protéger. Quand je dis qu'il ne doit pas y avoir de tabou, il y a quand même certaines limites qui sont à respecter, et cette limite, c'est bien sûr celle de votre intimité et de l'intimité de l'enfant. Si l'enfant vous pose des questions sur votre vie sexuelle, vous pouvez lui dire que ça n'est pas ses oignons, parce que c'est pas son intimité. De même, vous pouvez parler ouvertement d'un sujet comme la masturbation avec votre enfant ou votre adolescent, répondre à ses questions générales sur le sujet. La masturbation, ça n'est pas dangereux pour la santé, ça c'est toutes les études scientifiques le confirment. En revanche, si vous-même vous êtes intrusif, que vous lui posez des questions sur quand, comment, à quelle fréquence il se masturbe, est-ce qu'il regarde des films porno, là vous franchissez une autre barrière qui est la frontière de son intimité à lui.
Et vous parliez tout à l'heure des films pornographiques. Comment aborder ce sujet avec les jeunes enfants qui sont exposés de plus en plus jeunes, on a l'impression, à ces images souvent d'une extrême violence. Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Oui, alors effectivement, comme le gouvernement ne fait pas vraiment grand-chose pour appliquer la loi qui interdit d'exposer les mineurs à des images pornographiques, il va falloir que vous abordiez sérieusement le sujet, parce que le plus souvent, à 10 ou 11 ans, les enfants ont déjà vu des images pornographiques, et le plus souvent, la première exposition à la pornographie, elle est accidentelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'avoir recherchée. Donc il faut prendre le temps d'expliquer à vos enfants, premièrement, que ça existe, deuxièmement, que c'est interdit d'en proposer aux enfants. Et pourquoi ? Parce que ce sont des films qui sont violents et sexistes et qui montrent des pratiques qui ne respectent pas les partenaires, qui ne respectent pas l'intimité, qui ne respectent pas le consentement. Et finalement, parler de la pornographie avec votre enfant, ça peut être aussi une très bonne chose d'un point de vue pédagogique, parce que vous allez pouvoir définir avec lui toutes les valeurs que vous défendez, que vous promouvez au quotidien dans votre éducation, que vous cherchez à vivre, que vous cherchez à transmettre à votre enfant d'abord par l'exemple et puis ensuite par la parole, et toutes ces valeurs qui font faire à l'âge adulte une sexualité positive et épanouissante. Et ces valeurs, c'est le respect de l'autre, c'est la tendresse, c'est le consentement, c'est l'égalité entre les sexes, bien sûr. Et toutes ces choses-là, vous pouvez en parler avec votre enfant et les définir avec lui et dire qu'effectivement, les films pornographiques ne peuvent pas lui servir de modèle parce qu'il représente une sexualité où toutes ces choses-là sont complètement absentes et où on n'est pas justement dans le domaine de la sexualité saine et épanouissante qui peut être tellement, tellement agréable et même bien plus qu'agréable pour les deux partenaires, qui est très important dans notre vie. Mais tout ça est absent dans les films porno et la différence finalement entre justement une situation amoureuse et une situation de violence sexuelle, ça va être que ces valeurs sont foulées aux pieds.
Pour en revenir au sujet de l'inceste, j'aimerais bien que vous partagiez les informations autour des personnes qui peuvent connaître un enfant victime d'inceste. Quel est le comportement à adopter quand on est au courant de ces pratiques, et même si cela touche notre environnement proche, quel est le comportement à adopter immédiatement ?
Alors, si vous avez des informations selon lesquelles un enfant de votre entourage est victime d'inceste, il n'y a pas à tergiverser, il y a la loi, il y a l'article 444-3 du Code pénal qui dit très précisément que si vous avez connaissance d'un crime sexuel sur un enfant et que vous n'en informez pas immédiatement les autorités, vous commettez un délit. Donc, ce n'est pas à vous d'enquêter, ce n'est pas à vous de chercher des preuves, ce n'est pas à vous de dire « Ah, je manque de preuves, je manque d'informations supplémentaires, donc je ne vais rien faire ». Ce n'est pas à vous de décider finalement ce qui est vrai dans ces informations. Éventuellement, dans ces informations que vous avez reçues, il y a peut-être des choses vraies, des choses fausses. Les fausses accusations sont assez rares, on le sait, on a des études là-dessus. Mais votre devoir citoyen, si vous avez connaissance d'une situation de danger pour un enfant, c'est d'informer les autorités immédiatement. Et si vous avez un doute, donc vous appelez le 119, et là vous tomberez sur des gens qui sont professionnels, qui vont vous écouter et qui vont vous permettre de faire le point clairement sur la situation. Évidemment, il y a des freins à ça. Et le premier frein, ça va être la loyauté familiale et la solidarité familiale. C'est ce qui fait que, par exemple, c'est très difficile de porter plainte contre un membre de sa famille. Si votre sœur vous pique votre carte bleue et achète des trucs avec sur Internet, vous n'allez probablement pas porter plainte. Parce que vous voulez pas, vous avez une relation avec elle que vous voulez préserver et qui est peut-être plus importante que ce préjudice que vous avez subi. Mais dans le cas où il y a un enfant en danger, quand même, votre devoir, c'est d'agir immédiatement pour mettre l'enfant en sécurité. Et agir, ça veut dire prévenir les autorités, parce que tout seul, en tant qu'individu, on a des moyens d'action très limités pour venir en aide à un enfant qui est agressé dans sa propre famille.
Et qui sont les thérapeutes qui accompagnent ces survivants?
Donc, comme je l'ai dit, il y a en France actuellement une douzaine de centres de psychotrauma. C'est une spécialité en psychothérapie. Le plus souvent dans ces centres, on travaille de manière pluridisciplinaire. Donc, on va pouvoir avoir des psychiatres, des psychothérapeutes, parfois d'autres approches thérapeutiques qui viennent se compléter et essayer de répondre à l'ensemble des besoins de santé de la personne. Alors, il y a une disposition qui est pas très connue, qui pourtant existe depuis 1998 dans la loi française, c'est que les personnes survivantes d'inceste peuvent demander la prise en charge à 100% des soins par la Sécurité sociale au titre d'une ALD, c'est-à-dire d'une affection longue durée. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une démarche à faire avec votre médecin généraliste qui va évaluer vos besoins de santé et faire un dossier auprès de la Sécu. Et il faut savoir que ce dossier, il prend en compte votre état de santé et vos besoins de santé, et il est indépendant du dossier pénal. Par exemple, si l'agresseur est décédé et qu'il est de toute façon inenvisageable de déposer plainte contre lui, vous pouvez quand même bénéficier de cette prise en charge à 100% des soins par la Sécurité sociale.
Oui, c'est important de le dire. Et j'aimerais en revenir au travail formidable que vous faites à travers l'association qui s'appelle Face à l'inceste. Est-ce que vous pourriez nous parler des actions autour de l'inceste que vous faites avec cette association, nous parler de vos principales batailles, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, et potentiellement des solutions que vous proposez?
Alors nos batailles, on a toute une activité militante. En 2021, on s'est mobilisé lorsqu'il y a eu cette nouvelle loi sur les violences sexuelles qui a été débattue au Parlement. On s'est mobilisé on a rencontré les sénateurs, les députés, le ministre de la Justice pour échanger avec eux. On a remis aux députés des notes techniques sur les amendements qu'on préconisait. On a dénoncé d'ailleurs les failles qui subsistent selon nous dans le texte final. Il faut savoir que dans la loi française actuellement, quand il y a un enfant qui est victime d'inceste, il y a 7 articles différents du code pénal qui peuvent s'appliquer. Donc c'est vraiment difficile de faire plus complexe et plus difficile à appliquer que malheureusement ce texte du 21 avril 2021. Donc on a toute une activité militante qui existe depuis longtemps. On s'est battu par exemple pour faire allonger les délais de prescription pénale. Et notre objectif était d'arriver à l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que les crimes sexuels contre les enfants ne puissent pas être prescrits, être en quelque sorte annulés pour cause de date de péremption dépassée par la justice. Ça, c'est une activité militante. On a toute une activité aussi d'information et de prévention. Une autre chose importante qu'on a fait en 2021, ça a été de publier un guide du parent protecteur qui recense et regroupe toutes les informations utiles pour les parents protecteurs, qui sont le plus souvent des mères. C'est des mères qui dénoncent à la justice l'inceste subi par leur enfant et qui ne sont pas écoutées par la justice, qui ont de grandes difficultés face à des juges aux affaires familiales qui ne sont pas formés, qui sont parfois influencés par des théories non scientifiques comme l'aliénation parentale, mise en avant par la partie adverse. Et c'est une théorie pseudo-scientifique dont le seul but, elle était créée dans un seul but, c'est de décrédibiliser la parole des parents protecteurs et des enfants victimes, au profit évidemment des parents agresseurs.
Vous pourriez nous parler de cette théorie ?
Alors, l'aliénation parentale, c'est donc une théorie pseudo-scientifique qui a été publiée à compte d'auteur par quelqu'un qui était un pédocriminel. Et donc, c'est ce qu'on appelle une théorie anti-victimaire, c'est-à-dire que c'est une théorie qui se pare des apparences, des atours de la science, qui va réutiliser un jargon pseudo-scientifique, mais qui en fait n'a rien de scientifique, qui n'est pas validé, pas reconnu par la communauté scientifique, et qui est utilisée comme une arme anti-victimaire, c'est-à-dire une arme contre les enfants victimes de violences sexuelles et les parents qui les protègent. C'est quelque chose qui a été officiellement désavoué par le ministère de la Justice. Il y a une note interne qui, dans le cadre du 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, a été diffusée à l'ensemble des professionnels de la justice en France pour dire que le gouvernement désavoue officiellement le syndrome d'aliénation parentale et interdit finalement de l'utiliser dans les expertises judiciaires et dans les décisions de justice. Alors sur le terrain, l'application de cette directive laisse encore à désirer. Il faut que vous sachiez, si vous êtes dans cette situation difficile et si vous avez un expert face à vous qui va dire « mais non, vous êtes en situation d'aliénation, vous êtes une mère aliénante et vous êtes en train de manipuler votre enfant », il faut savoir quand même que ces théories pseudo-scientifiques ont été officiellement désavouées par le ministère de la Justice.
Heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres actions dont vous voulez nous parler autour de l'association Face à l'inceste ?
Oui, alors on va développer les formations à destination des professionnels. Ça, c'est une activité phare qu'on va beaucoup développer. On développe également les actions de prévention. On est en train de travailler sur des cahiers de prévention, donc qui vont être à destination des enfants et qu'on pourra destiner. Donc c'est des matériels pédagogiques, vraiment, à papa, organisés par tranche d'âge, pour la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, qui vont aborder un petit peu tous les sujets qu'on a couverts, mais aussi d'autres sujets comme la prostitution, dont on n'a pas parlé dans cette émission, les violences sexuelles en ligne, voilà. Donc ça, c'est notre activité d'informer, de développer la prévention, en complément donc de l'activité militante pour alerter sur les dysfonctionnements judiciaires et puis tenter de faire évoluer la loi dans un sens qui protège davantage les enfants.
C'est un travail formidable. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner à tous les auditeurs, les parents, les enseignants qui souhaiteraient lutter à leur échelle contre l'inceste ? Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter ?
Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas en avoir peur. Les violences sexuelles contre les enfants, pour moi, doivent être traitées comme un problème de santé publique. C'est-à-dire, c'est comme le cancer ou les accidents de la route. Ça fait des victimes, ça fait des morts. On sait que c'est dramatique, mais il y a quand même des mesures qui peuvent être prises collectivement pour limiter les dégâts et pour mieux venir en aide aux personnes victimes. Donc moi, j'ai envie d'inviter les adultes à ne pas avoir peur de se saisir du sujet, éventuellement, si c'est nécessaire, de travailler avec un thérapeute sur leurs propres peurs et blocages, qui pourraient les empêcher d'aborder ce sujet avec sérénité. Afin de mieux protéger nos enfants, il faut regarder en face les violences sexuelles. Il faut les regarder, donc il faut s'informer pour essayer de regarder comment elles sont réellement, comment elles fonctionnent, quels sont les risques précis que courent nos enfants, qui sont parfois un peu éloignés de certains stéréotypes. Je peux donner un exemple, c'est que mon père me parlait des monsieur saucissons qui enlevaient les enfants à la sortie de l'école, pour leur faire évidemment des misères. Donc je me suis méfié des monsieur saucissons à la sortie de l'école. Mais en réalité, les chiffres montrent que 94% des agresseurs sont dans le cercle familial, amical, où ce sont des gens qui sont connus de l'enfant. Ou alors c'est un professeur, un coach sportif. Et donc, pour bien lutter contre les violences sexuelles, une des premières choses à faire, c'est de les regarder en face, c'est de les regarder dans leur réalité. Et la réalité des violences sexuelles sur mineurs, c'est qu'elles sont commises, d'abord et avant tout, dans le cercle familial.
Merci beaucoup, Patrick, de mener ce combat, de continuer à sensibiliser le monde sur ce tabou sociétal si dangereux. J'invite tous nos auditeurs à consulter l'actualité de l'association Face à l'inceste, de faire un don, d'en parler autour d'eux. Et bien sûr, grande annonce pour vous, vous sortez un livre très prochainement, vous en avez parlé, sur ce sujet que nous avons tous hâte d'avoir entre les mains. Donc merci beaucoup pour votre temps, pour tout ce que vous faites, et je vous souhaite une très belle soirée.
Merci Stéphanie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.